sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Johanna Gabric. La gourmandise ce matin, c'est le sens de la formule et l'esprit du général de Gaulle dont le physique faisait dire à Churchill « il ressemble à un lama femelle qu'on aurait surpris dans son bain ». Voici trois sentences du brillant animal. L'ambition individuelle est une passion enfantine. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. Et pour finir, j'ai entendu vos points de vue, ils ne rencontrent pas les miens, la décision est prise à l'unanimité. Notre apothicaire de l'âme naît à Rome et grandit entre la capitale italienne. Allez-y.
J'ai une autre citation du général de Gaulle que je voudrais vous soumettre.
Ah oui, bien sûr, mais excusez-moi, je voulais faire une aguiche pour plus tard, je vous en prie.
Ah bon,
mais ne dites pas qui vous êtes car je vais vous faire deviner, allez-y. Oui.
Quand il met le pied pour la première fois sur le sol de Normandie, je crois que c'est le 17 juin 1944, il y a un de ses adjoints qui était avec lui. Vous vous rendez compte, mon général, mais il y a 4 ans, jour pour jour, les Allemands rentraient dans Paris et de Gaulle fait « Eh ben, ils ont eu tort ». Je trouve ça très drôle.
Oui, véritable sens de la formule.
On l'entend dire « Eh ben oui, eh ben, ils ont eu tort ».
Alors, il va falloir que je révèle vite aux auditeurs qui j'ai en face de moi. Donc, je reprends de façon très scolaire mon introduction.
Oui, excusez-moi.
Non, je vous en prie. Si. Bah, on a une heure quand même, donc je préférerais que vous parliez.
Vous couperez de toute manière.
On n'a qu'à rester sur le générique pendant toute l'émission, sinon.
Pourquoi pas?
Oui. Bon, vous êtes né à Rome, vous avez grandi entre la capitale italienne, Montevideo, Genève et Caracas. Dans les articles qui présentent notre apothicaire de l'âme, on trouve toujours deux informations. Le fait qu'il soit descendant d'une grande famille russe et héritier du titre de prince, et le fait que son grand-père soit l'illustre François Mauriac. J'ai essayé de ne pas faire pareil, mais cela impliquait de renoncer au romanesque. Et habiter avec Mauriac, je cite notre invité, ça voulait dire la guerre d'Algérie, les flics devant la maison, la protection. Même si je suis contre tout déterminisme généalogique, le décor initial a un certain panache. Encore plus avec la voix empruntée par notre apothicaire qui, après des études de dessin publicitaire, publie ses premières illustrations en 68 dans des titres de presse rock comme Pop Music, Rock and Folk et Best. C'est la même année qu'il choisit...
Pas Rock and Folk, mais c'est pas grave.
Ah bon ?
Non.
Oh là, ces idiots de journalistes qui écrivent n'importe quoi. Et ces idiots de journalistes qui le répètent à l'antenne. C'est la même année que vous choisissez de couper votre joli nom slave en deux, notamment à cause de Volinsky, avec lequel on ne cesse de vous confondre. Passionné de politique, je repasse à la troisième personne, il collabore brièvement au journal Maoïste rouge, puis devient rapidement l'un des
dix. Non, ça, écoutez, moi, je veux bien... Mais non, mais vous allez mettre... Non, mais attendez, tous les gens... France Inter, normalement, il y a des gens à peu près cultivés qui écoutent.
Mais oui.
Rouge n'a jamais été un canard maoïste, c'était un canard trotskiste.
Ah, oh, pardonnez-moi.
Et j'ai dessiné pendant longtemps, cher Rouge, c'était très sympa. C'est avec chez les Mao, j'étais très, très rapide, je fais un passage très rapide.
D'accord, alors j'ai fait une confusion terrible, oui. Je suis vraiment, pardonnez-moi.
Non, mais c'est pas votre âge, je vous dis, vous êtes trop jeune.
Non,
vous
mais c'est pas connu. Si, mais moi je lis, je travaille énormément, donc normalement je n'aurais pas dû faire cette erreur.
Excusez-moi, je dis plus rien.
Si.
Même si vous parlez du général de Gaulle qui était un chinois très connu,
oui,
je dirais c'est vrai.
Oui, c'était un chinois très connu. Et alors, vous avez collaboré avec votre humanité, votre humour et votre lucidité aux nouvelles littéraires. Vous me dites oui ou non, d'accord, à Science et Avenir,
ouais.
La Croix,
ouais.
L'Événement,
ouais.
Libération,
ouais.
Et en ce moment le JDD.
Ouais.
Ouais,
et surtout l'OPS, quand même, j'ai fait 46 ans à l'OPS.
Oui, vous êtes un dessinateur historique de l'OPS et on va rester sur ce générique pendant 5 heures. Vous avez aussi fait plusieurs albums pour petits et grands et c'est aux premiers que sont destinés les fabuleuses aventures du fantôme qui pète. Je me suis juré de dire ça sans rire, mais des héros s'appelant Prouty, Prouta ou Rototo réjouiront assurément toutes les âmes. C'est le cas en tout cas pour la mienne. On arrive enfin à la fin de cette présentation. Bonjour Viaz.
Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez ?
Eva.
Pas.
Viaz, première question, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Vous savez que moi je suis à moitié russe. Et s'il y a un peuple qui cultive la mélancolie, c'est vraiment le peuple russe. Hein. C'est vraiment... Je ne sais pas si c'est dans Tchekhov ou dans Pushkin, je ne sais pas où il dit que les Russes ont le choix entre l'ennui ou la mélancolie. Ils choisissent la mélancolie. Moi j'aime bien la mélancolie, il ne faut pas en abuser.
Vous avez beaucoup d'accès de mélancolie, vous ne la fuyez jamais ?
C'est-à-dire que j'ai un défaut terrible, je ne suis pas du tout de mon temps. Vous avez vu mon portable, j'ai un vieux portable, machin, etc. Je suis tourné plus vers le passé que vers l'avenir.
Et donc c'est plutôt de la nostalgie que de la mélancolie?
Oui, ben pas vraiment de la nostalgie, mais c'est un peu lié à la nostalgie. La mélancolie, c'est un peu lié. Et donc, je ne dis pas que je la cultive, hein. Non, mais c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des accès de mélancolie.
Vous ne la craignez pas?
Ouais, non, je ne la crains pas. Non. La tristesse, je la crains, oui.
Vous la différenciez vraiment
tristesse? Ah, oui.
En quoi, par exemple, la tristesse a un objet, la mélancolie est sans objet?
Ben, je suis, quand ma femme et ma sœur sont mortes, c'est de la tristesse. Il peut m'arriver maintenant de penser à elles, et c'est de la mélancolie. C'est pas pareil. Enfin, je sais pas, je dis des bêtises, je sais pas.
Pas du tout. Couperez. Non, pas du tout. Je ne couperai absolument pas.
Mais c'est vrai que quand je pense à mes... Non, c'est vrai que c'est plus de la nostalgie, là, c'est pas la même chose. C'est très compliqué. Entre nostalgie et mélancolie, c'est plus compliqué, la différence.
Mais la nostalgie, c'est quand même l'idée d'un retour. C'est soit spatial, soit temporel. La mélancolie, ça peut être un deuil sans objet.
Oui, non, je suis pas tellement mélancolique. Vous connaissez mieux le sujet que moi, quand j'y réfléchis.
Peut-être pas.
Pas tant que ça, non.
D'accord.
Plus nostalgique que mélancolique, oui.
Alors, on va se réjouir avec ce que vous avez choisi. Vias, dans quelques instants, vous allez convoquer, n'hésitez pas à m'interrompre si je me trompe, Jane Mansfield, Blaise Pascal, Martine Carole, Otis Redding, Charles Trenet, Une chambre jaune, Les quais, Toulouse-Lautrec, Degas et Cézanne, juste après.
Il n'y a pas beaucoup de trucs modernes, vous remarquerez.
Non, mais moi, ça me va très bien.
Oui.
Je suis très classique. On écoute d'abord un titre de la playlist France Inter, presque d'Alain Souchon.
À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains, te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Vias.
And now, folks, just like I promised you, here he is back again, Eddie Cochran, one of America's top rock and rollers. Eddie?
Ooh, well, I'd gotta get over the red light machine. When it comes to rockin', she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, fly three, fly four, fly six, seven, fly eight, fly more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 54, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk one, two, fly, three, fly, four, five, six, seven, fly, eight, fly more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Up 15th, the 4th, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. Love my baby too much to wait. All these climbers are getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, fly, 3, fly, 4, 5, 6, 7, fly, 8, fly, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock.
1956, La Blonde et moi de Franck Tachlin, film adapté du roman d'Orémy de Garson Kanin. Pourquoi avoir choisi la scène où chante Eddie Cochran?
D'abord parce que c'est le seul document qu'on ait de lui chantant. Il est mort très tôt. Il est mort en 60, je crois. Et c'est un film formidable parce que c'est un film, au départ, qui voulait se foutre de la gueule du rock'n'roll. Qu'est-ce qu'il a fait, Tachlin? Il a filmé. Il a filmé, il est allé voir tous les chanteurs de rock qui débutaient et les a filmés. Ce qui fait qu'on voit Little Richard qui chante deux chansons. On voit Eddie Cochran donc, qui chante 20 Flight Rock. On voit Gene Vincent qui enregistre Bebop Alula. On voit Fats Domino. On voit les plateurs. C'est formidable.
Et Julie London.
Chanteuse évidemment.
Épatante.
Formidable.
Magnifique. Alors, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, résumer ce dont il s'agit?
Il s'agit d'un truand qui s'est pris d'un amoureux d'une belle blonde qui est Jane Mansfield, qui veut en faire une star. Pour en faire une star, il cherche un impresario un petit peu à la ramasse, qui est très malheureux parce que justement, sa nana qu'il aimait l'a plaqué. Il s'agit de Judy London. Il voit partout. Dès qu'il boit un verre, il voit Judy London.
En apparition en fantôme.
En apparition en fantôme, oui. Et ce qui fait qu'on voit Judy London tout le temps, qui chante. C'est formidable. Et donc, lui, évidemment, le mec tombe amoureux de Jane Mansfield. Mais avant, il faut qu'il le trimballe dans tous les cabarets. Et c'est là où on voit tout le monde.
Il y a un côté très cartoonesque. Tachlin, d'ailleurs, a travaillé dans l'animation pour Max Fleischer, la Warner Bros, Walt Disney. Il faisait aussi des comic strips pour des magazines sous le pseudonyme de Tish Tash.
Je ne savais pas ça.
Et vous saviez qu'il était gagman pour Laurel et Hardy et Harpo Marx?
Non, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, il y a des gags de cartoon.
Vous voyez que vous savez plein de choses.
Wikipeva, c'est mon surnom. Non, mais Vias, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai vu ce film. J'espère que ça donnera envie à d'autres auditeurs.
Oui, mais on le voit pratiquement jamais. Et il est introuvable en CD. Je ne le trouve pas.
Ah oui?
Oui.
Peut-être sur Internet
Oui, mais moi, je n'ai pas Internet.
Je
vous l'ai dit que je suis très, très arriéré. Je n'ai pas Internet.
Non, pas arriéré, classique.
Bon, pas classique du tout. Un petit peu attardé.
Non, arrêtez de vous vanter. Jane Mansfield, je voudrais qu'on en parle parce qu'elle fait fondre les glaçons dans ce film et elle casse
génial.
Les lunettes.
Avec en plus la chanson de Little Richard, The Girl Can Help, c'est formidable. Le gamin met les mains sur les glaces quand passe Jane Mansfield et ça fond, c'est formidable.
Comme dans un Tex Avery.
Les bouteilles de lait explosent.
Et la scène que vous avez choisie, Vias, où Eddie Cochran chante, c'est assez amusant car ils se moquent de lui et ils disent, vous voyez Eddie Cochran, il n'a pas de voix.
Il ne sait pas chanter.
Donc Jane Mansfield peut aussi devenir une star hollywoodienne de la chanson. Sauf que problème, elle chante comme une crécelle. C'est ce qu'on croit.
Oui, mais justement, il pense, en voyant Eddie Cochran, il se dit, puisque Eddie Cochran arrive à vendre des trucs, elle arrivera aussi. Puisque Eddie Cochran est nul, il le dit. Il ne sait pas chanter.
Bon, allons trouver la consolation auprès d'une autre blonde.
M'enlève ! Encore vous ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ?
Bah et vous ? D'abord pour me parler et rengainer votre Spoutnik. C'est pour épater qui, ça ?
Main en l'air !
Main en l'air, main en l'air. Quand vous êtes seule avec une jolie femme, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Main en l'air.
Oui, quand elle est dangereuse.
Mon papa Pellec vous a pas dit que j'étais innocente, non ?
Si, mais je réserve mon opinion.
Vous allez me laisser comme ça longtemps ? Vous voyez pas que ça me fait descendre le sang des mains dans la tête ?
Repos !
Oh, vous êtes aussi adjudant. Adjudant flic.
Ah, je suis adjudant. Autant, repos, autant, repos. Je vous dresserai, moi, petite fille.
Ah, ma charmante réception.
Ah, je ne suis pas un homme du monde, non, mon bébé.
Martine Carole et Félix Martin dans Nathalie, agent secret, film que vous regardiez en fanviase, réalisé par Didier Decoin en 59 et dans lequel se trouve l'une de vos citations consolatoires, dites par Martine Carole. Dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. On dirait oui, du Oscar Wilde.
Oui, mais apparemment, vous avez dit la citation, je peux même plus en parler après.
Bah si.
Parce que c'était, le film, je l'ai vu sur le bateau. À l'époque, papa travaillait en Amérique latine.
Votre père était diplomate.
Oui. On passait son temps. Quand j'y pense maintenant, c'est une merveille. À l'époque, il y avait des vrais paquebots. Et on passait son temps à traverser l'Atlantique. Moi, à l'âge de 12 ans, j'avais traversé 8 fois l'Atlantique déjà, ce qui est pas mal quand même. Et sur le bateau, il y avait des films. On voyait des films pratiquement tous les jours quand on était en pleine mer. Et un jour, il y avait Nathalie, agent secret. Dans Nathalie, agent secret, moi, je croyais que c'était Martine Carole qui dit ça, mais en fait, je l'ai revu récemment, c'est pas Martine Carole, c'est un méchant. Il dit, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et j'avais 12 ans, 10-12 ans, et je me suis dit, il a raison, c'est vrai. Et je me fie à ça dans presque tout.
Est-ce que vous pouvez, Viaz, nous dire la différence qu'il y a entre remords et regrets?
Ben, par exemple, quand je suis bibliophile, j'adore ça. Quand je vais sur les quais, et je vois un livre qui m'intéresse, mais soit il est un peu cher, soit... J'hésite. Je pense à cette phrase. Et si je ne l'achète pas, j'aurai des regrets de ne pas l'avoir acheté. Si je l'achète et que finalement j'ai eu tort, j'aurai un petit peu de remords, mais ce n'est pas grave. Mais le fait d'avoir le regret de ne pas... C'est un peu comme aborder une jolie fille dans la rue. Ce que je ne fais jamais, parce que je suis trop orgueilleux, là aussi, c'est un autre sujet, ça. Mais si on ne le fait pas, on aura des regrets. Si on le fait et qu'elle vous fout une baffe, on aura peut-être des remords, mais ça, c'est pas grave.
Donc les regrets à éviter beaucoup plus que les remords.
Oui, pour moi, oui. Mais peut-être que je me trompe, mais pour moi, oui.
Avez-vous, Vias, beaucoup de regrets et de remords? Ou un plus que l'autre?
Que je réfléchisse. J'ai des regrets, quelques regrets, oui. Le regret principal étant de... Bon an, mal an, d'avoir loupé papa. Loupé mon père qui est mort quand j'avais 14 ans. Et que j'ai... C'est compliqué, je ne vais pas raconter ça, c'est trop compliqué, ça vous ferait pleurer. C'est une émission sur la nostalgie, c'est pas sur la tristesse.
C'est comme vous voulez.
Non, mais c'est vrai que j'en veux beaucoup à un de mes oncles qui vit toujours derrière à côté de chez vous, là, qui m'a complètement phagocyté. Il était, à l'époque, il n'avait pas d'enfant. Et moi, j'adorais cet oncle. J'adorais parce qu'on allait à la chasse ensemble, on allait en forêt ensemble, on collectionnait les timbres ensemble, etc. Alors que papa était plutôt sévère. J'avais un peu peur de papa. Et je dois dire que quand on se baladait dans la forêt ensemble, d'un coup, il me disait « Qui te préfère, ton père ou moi ?» Et moi, je savais, j'avais 12 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, je savais que c'était papa qu'il fallait que j'aime. Mais en fait, je le préférais lui. Mais je lui disais « Papa, ah bah, si c'est comme ça, va-t'en, je veux plus te voir. » Et moi, je lui courais après. « Non, c'est toi. » Et papa est mort.
Mais c'est assez puéril de la part de votre oncle. Enfin, je ne veux pas émettre...
C'est pas puéril, c'est dégueulasse.
Ouais.
C'est dégueulasse.
Oui, ça me paraît pas très adulte.
Lui savait que papa était malade, moi, je le savais pas. Oui, bon, enfin bon, c'est pas très intéressant, mais c'est...
Si, puisque...
Je ne lui pardonne pas, mais il s'en fout, lui. J'en ai parlé une fois, il s'en fout.
Mais l'important, c'est que vous l'ayez dit.
Oui, mais j'aurais préféré dire à papa que je l'aimais.
Je comprends, mais ça, c'est...
Je dis, une fois, je me souviens, je suis rentré, quand il était déjà très malade, je suis rentré du lycée, et je l'ai vu, il souffrait beaucoup, et je me suis approché vers lui, et je l'ai embrassé. Puis je suis retourné, et là, j'avais donc papa dans mon dos. À ce moment, maman est arrivée. Maman a regardé papa, donc demain, et lui a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis retourné, papa pleurait. Il a dit « Ton fils est adorable. » Mais j'aurais dû le faire ça tous les jours.
Mais vous l'avez déjà fait une fois.
Oui, mais j'aurais dû le faire tous les jours.
On a toujours des regrets, voilà. Quand on n'a plus ses parents.
Donc ce regret-là, c'est un gros regret.
Je comprends.
Te remords pas tellement. Non. Vraiment, je crois pas. Peut-être en cherchant bien, mais non, je crois pas.
Viaz, si vous le permettez, je passe à une autre citation que vous avez choisie pour l'émission.
Oui.
Elle est extraite des Pensées de Pascal, et c'est « Que de royaume nous ignore ». Oui. Ignorer dans le sens ne pas nous connaître ou nous mépriser, les deux sont possibles. Ce qui est frappant, c'est pas combien de royaumes nous ignorons, ce que Pascal dit avant, c'est combien de royaumes nous ignorent. Comment entendez-vous cette citation?
Écoutez, je vais vous dire comment je l'ai connue d'abord. J'étais en Angleterre, c'était là aussi, je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça, dans une famille anglaise, et moi à l'époque je lisais Balzac beaucoup. Et il ne connaissait pas Balzac. J'étais absolument atterré de penser que ces gens-là ne connaissaient pas Balzac. Alors j'avais écrit une lettre à mon grand-père Mauriac, que j'appelais mon papa, dit ça. Et il m'a renvoyé une lettre en disant « C'est normal, qu'ils ne connaissent pas Balzac, ils sont anglais, que de royaumes nous ignorent. » La phrase, je l'ai connue comme ça. Et c'est vrai que... Mais je m'en sers tout le temps. Quand je ne sais pas quelque chose, je dis « Que de royaumes nous ignorent, c'est très bien, ça sert. » Ah, moi, j'ai que des phrases utiles.
Est-ce que ça vous arrive d'agir contre cela, Viaz, contre des royaumes qui vous ignorent? Est-ce qu'il y a des royaumes par lesquels vous aimeriez être connu?
Bon, on aimerait toujours être plus reconnu qu'on l'est. Mais honnêtement, j'ai eu une vie formidable. À 23 ans, je suis rentré dans ce qui était le meilleur hebdomadaire de France, qui était le Nouvel Obs. J'y suis resté 46 ans. Vous vous rendez compte, la chance que j'ai eue, c'est phénoménal. Vraiment, compte tenu de mes qualités au départ, non, j'ai eu beaucoup de chance.
Oh, arrêtez, vous vous dénigrez.
Non, mais quand je vois mes premiers dessins, ils étaient quand même pas terribles. Ça s'est amélioré avec le temps, mais j'avais 23 ans. Hein. Honnêtement, à l'époque, j'avais demandé un contrat de 6 mois qui m'a été refusé.
Il y a une jolie citation dans les pensées de Pascal qui rejoint un peu celle que vous nous avez soumise. Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Et nous sommes si vains que l'estime de 5 ou 6 personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente.
C'est bien, mais il y a plein de citations de Pascal vachement bien.
C'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout, Pascal.
Oui, c'est vraiment bien.
Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal.
Monsieur, on vient de se téléporter dans les années 30 avec le titre « Vous oubliez votre cheval » de Charles Trenet, qui excelle souvent à chanter des choses graves avec légèreté et fantaisie. Viaz, vous chantiez jusqu'au refrain qui est le
plus... Non, j'aurais pu tout chanter si vous voulez.
Ah oui, parce qu'à un moment je vous ai regardé, vous aviez l'air très mélancolique pendant qu'il disait « Vous oubliez votre cheval ».
Non, pas du tout. Bah, mélancolique, non, je crois pas. Non, j'ai toujours une tête un peu fatiguée. J'ai toujours l'air d'être fatigué, moi.
Ah oui, oui. Et vous l'êtes?
Non, bah, par moment, oui, mais pas spécialement. Pas en ce moment, en tout cas, ça va très bien.
Et alors pourquoi ce morceau, Viaz?
J'ai choisi ce morceau, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres. Trenet, c'est magnifique. C'est magnifique, Trenet. Moi, j'étais élevé à Trenet. Mon grand-père adorait Trenet. Ma mère adorait Trenet. Ma femme adorait Trenet. J'adore Trenet. Et ma fille était folle de Trenet. Elle allait le voir à tous ses concerts.
Vous avez choisi un autre...
J'aurais pu en choisir une autre. J'aurais pu choisir La Folle Complainte, par exemple. Mais elle, pour le coup, c'est une chanson mélancolique.
Mais il y a beaucoup de chansons mélancoliques, il y a beaucoup de chansons qui paraissent joyeuses, puis quand on écoute les paroles attentivement, c'est très triste.
Il se suicide très souvent.
Très souvent.
Même il y a de la joie. Il y a de la joie, à la fin, il se pend. Ficelle, tu m'as fidèle, grâce à toi, c'est incroyable.
C'est dans Il y a de la joie, ça?
Il y a de la joie, oui.
Alors, il me semble que dans Il y a de la joie, il se réveille et il se rend compte que c'est un rêve.
Je chante. C'est
oui, je
chante.
Excusez-moi. Je vous en prie.
Non, mais c'est l'âge. Vous verrez à mon âge.
Non, arrêtez. Viaz, vous avez aussi choisi la chanson de Chuck Willis, It's Too Late, reprise
non.
par... Si,
oui,
reprise
d'accord,
par...
Oui. D'accord.
To Do, l'ami. Reprise par Otis Redding en 1965, qu'on va écouter. Mais juste avant de l'écouter, un petit mot dessus. It's Too Late, il est trop tard. Le narrateur n'a pas déclaré son amour à temps et il est trop tard.
Oui, c'est une chanson magnifique que j'ai aussi par Chuck Willis. Et moi, j'ai eu la chance, ça c'est le bénéfice de l'âge, de voir Otis Redding sur scène. C'était février 67, je crois. Il y avait toute la tournée Stax. Stax, ça veut dire, il y avait non seulement Otis Redding, mais il y avait aussi Arthur Conley, Sam and Dave, et puis surtout tous les musiciens Stax, qui étaient magnifiques. Et c'était formidable.
Et It's Too Late?
Ben, il ne l'a pas chanté sur scène, d'après mes souvenirs. Mais je trouve que c'est une chanson, elle n'est pas très connue. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Mais elle est très triste, hein.
Alors, on l'écoute.
Parce que celle de Chuck Willis, à la fin, il y a un espoir dans la version originale. Dans celle d'Otis Redding, il n'y en a pas.
Alors, nous sommes désespérés, ça nous va très bien. On écoute tout de suite It's Too Late, Otis Redding.
We spy and told her who she was, my only one. But it's too late, it's too late, she's gone. It's too late, she's gone now. I know she's gone now. It's too late. My baby's gone now. I need her love, oh, more than anyone. Ooh, but it's too late. I know it's too late. She's gone. It's a weak man. That's crying now.
get some better dress, my weeping eyes. I need her loving more than anyone. Oh, but it's too late. It seems like it's too late. She's gone. She's gone. My baby's gone. She's gone. Oh, my baby, she's gone. Sometime, does she really know? Does she really know? Does she really know? When she left me, oh, it hurt my little heart so now. I need to love thee. Please don't make me wait long, but it's too late. Loving, oh, more than anyone. Don't let it be too late. No, don't let it be too late. But she's gone. Which I had told her, ooh, she was my only one. Ooh, but it's too late. I knew it's too late. She's gone. Which I had told her, oh, she was.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Viaz. Votre sérum littéraire est un roman policier publié en feuilleton en 1907 dans le supplément littéraire de l'Illustration. Il s'agit du Mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux, soit la première enquête du jeune reporter Joseph Rouletabille. Je vous laisse expliquer l'histoire.
C'est très compliqué l'histoire.
L'histoire, c'est compliqué, au début.
En gros, c'est qu'il y a une dame qui s'appelle Madame Stangerson qui on cherche à l'assassiner dans une chambre qui est close. On ne sait pas comment l'assassin a pu réussir à s'en sortir et tout ça. Enfin bref, pour aller à la passage que j'ai envie de lire, parce que c'est très compliqué, c'est vachement bien. Je crois. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu. C'est ma sœur qui m'a forcé. Elle a commencé à me... Parce que moi, j'étais très en retard. Très en retard, ça veut dire que j'avais 10 ans. Hein. Maintenant, un monde de 10 ans qui lit, c'est un génie, mais à l'époque, non. Et elle a commencé à me lire le livre, et puis après, elle m'a dit, maintenant, tu te débrouilles, tu continues. Et j'ai continué.
Mais je l'ai lu grâce à vous. Et c'est vrai que c'est un régal. On a l'impression que Gaston Leroux nous prend par la main et que c'est un divertissement délicieux.
Oui.
Vous voulez nous lire un passage, mais alors d'abord, il y a quand même une question d'éthique qui se pose à nous, Viaz.
Oui.
Le passage que vous allez lire risque de révéler le nom de l'assassin. Est-ce que vous voulez dire le nom de l'assassin ou est-ce que vous voulez le remplacer par un autre nom X, par exemple ?
Bon, c'est difficile, le problème c'est que je sais plus très bien.
Alors faites comme vous voulez. C'est vous qui jugez, c'est votre conscience.
Mais attendez, parce que le problème,
c'est votre karma.
Je croyais avoir trouvé la page.
Écoute, moi je vous ai imprimé le texte, si vous voulez.
Oui, je veux bien.
Tenez.
Ouh, c'est petit, hein. Voilà. Rouletabille dit au président, ce n'est pas Robert Darzac qui est l'assassin, je sais qui est l'assassin.
Robert Darzac, c'est donc
c'est
le futur fiancé
oui,
de
Mathilde. Oui, mais c'est surtout l'accusé du procès. On le considère comme étant l'assassin. C'est pas lui l'assassin, mais je vous dirai le nom de l'assassin, je le sais, à 6h du soir, en fin d'après-midi. Alors le président est furieux. Mais quoi ? Si, écoutez, ça ou rien, vous débrouillez. Mais... Ok. Monsieur le président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers 4h et on ne l'a plus revu. Rouletabille clama triomphant. La preuve, la voilà. Expliquez-vous. Quelle preuve ? Demanda le président. La preuve irréfutable, fit le jeune reporter. Ne voulez-vous pas que c'est la fuite de Larsan ? Vous jure qu'il ne reviendra pas aller. Vous ne le reverrez pas, Frédéric Larsan. Rumeur au fond de la salle. Si vous vous moquez pas de la justice, poursuit monsieur, comment n'avez-vous pas profité de ce que Larsan était là avec nous, à la barre, pour l'accuser, en face ? Au moins, on aurait pu vous répondre. Quelle réponse était plus complète que celle-là, monsieur le président ? Il ne répond pas. Il ne répondra jamais. J'accuse Larsan d'être l'assassin et il se sauve. Vous voyez bien que ce n'est pas une réponse, ça. Nous ne croyons pas que Larsan, comme vous dites, soit sauvé. Comment se serait-il sauvé ? Il ne savait pas que vous alliez l'accuser. Si, monsieur, il le savait. Puisque je lui ai appris moi-même tout à l'heure. Vous avez fait cela ? Vous croyez que Larsan est l'assassin ? Et vous lui donnez le moyen de fuir ? Oui, monsieur le président. J'ai fait cela, répliqua Rouletabille avec orgueil. Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un humble journaliste. Mon métier n'est point de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux. C'est mon affaire. Préservez, vous, autres, la société, comme vous le pouvez, c'est la vôtre. Mais ce n'est pas moi qui apporterai une tête au bourreau.
C'est assez émouvant comme passage.
Très, très émouvant. C'est parce que, après, qu'on réalise, à partir de Maigret, sont tous des flics, tous des policiers. Et c'est vrai qu'ils apportent. Maigret passe son temps à apporter les têtes au bourreau, c'est son métier. Et là, lui, non. Lui,
il trouve, mais après, c'est.
Il trouve, il dit moi, j'ai trouvé, je donne l'assassin, mais je lui laisse le temps de partir.
Le mystère
de la
chambre.
J'ai dit très mal. Hein.
Vous êtes un grand lecteur, Viaz. Vous avez fait un ouvrage intitulé « Dessins littéraires » et c'est des portraits au petit point à l'encre de Chine,
oui,
de Flaubert, George Sand, Karen Blixen. Est-ce que ce sont des écrivains que vous avez choisis parce que vous les aimiez ou juste parce que vous vouliez les dessiner ?
Il y a de tout. Il y a déjà des dessins que j'ai faits parce qu'on me l'avait demandé pour l'Obs, etc. Des dessins que j'ai, des écrivains que j'ai faits parce que j'aimais, comme par exemple Maurice Leblanc ou Gaston Leroux. Et puis des dessins aussi de gens que j'aimais pas.
Comme ?
Je n'aimais pas comme homme, hein. Comme Maurras, comme Céline, des gens comme ça. Et puis, le hasard, un peu. Il y a de tout.
Vous citez Leblanc et Leroux, vous aimez les enquêtes ?
J'adore ça.
Pourquoi, à votre avis ? J'ai l'impression que c'est parce que c'est un des seuls endroits où on a un sentiment de maîtrise sur l'existence. On peut comprendre enfin quelque chose avec les causes et les effets, contrairement à tout le reste qui est souvent absurde et...
Là, vous posez des questions vachement intéressantes et intellectuelles. Il faudrait que je réfléchisse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec Maurice Leblanc et Gaston Leroux. Et c'est vrai que je ne suis pas très attiré par ce qu'on appelle maintenant par les Christine Angot et autres, qui racontent leur vie. Ça me fait chier. Moi, j'ai envie d'être dépaysé par ce que je lis. Ce n'est pas forcément des policiers. Mais en ce moment, je dois dire que je lis beaucoup de policiers.
Vous en avez un à nous recommander ?
De nouveau, de tout nouveau, non. Mais il y en a des très bien, je sais, mais je ne les ai pas lus. Mais pardon, avec comment il s'appelle ? Enig Mankell, qui est mort, malheureusement, qui faisait les Valander, c'était formidable. C'était formidable. Mais c'est un flic.
Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème, sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis.
Sur les quais du vieux Paris de Lucienne Delisle, pour illustrer l'activité qui vous grise, Viaz, marcher sur les quais. Et j'ai découvert en enquêtant comme un détective privé que l'association culturelle des bouquinistes de Paris avait choisi d'exposer vos dessins d'écrivains au Salon international du livre rare de 2018. Les premiers quais de Seine ont fait leur apparition début 16e. Et à partir du 17e siècle, ça devient un des principaux lieux de rencontre de la capitale. On lave son linge, il y a du commerce maritime, les fêtes du roi et les bouquinistes font leur apparition. C'est grâce à la présence des bouquinistes que vous aimez les quais ?
Ah oui. Ah oui. D'abord, j'adore Paris. Moi, encore une fois, je ne suis pas né en France, je suis né à Rome. J'ai grandi à l'étranger. Je suis arrivé vraiment à Paris à l'âge de 12 ans. Sérieusement. Et très vite, j'ai fait les quais de Paris. Et les bouquinistes, c'est absolument génial. On peut tout trouver. On trouve encore, vraiment. Et c'est magnifique. Depuis qu'il y a Hidalgo, c'est moins bien parce que, comme elle a fermé les voies sur berge, il y a deux fois plus de voitures en haut. Donc ça pue beaucoup, très fort. Mais sinon, c'est un endroit magnifique. Et dès qu'il fait un peu beau, etc., j'y vais. Et je trouve encore des choses incroyables.
Quelle est votre dernière trouvaille, par exemple, Viaz ?
Ça, j'en sais rien, j'ai pas réfléchi.
Vous Alors, avez... pas la dernière, une trouvaille. Une trouvaille réjouissante.
Je devrais pas dire ça, c'est pas très gentil pour le mec qui me l'a vendu, mais... c'était à Brassens, c'était il y a deux mois, je crois. Il y avait un livre qui était là, qui était une jolie reliure, début 19e, des pièces de Molière, je crois, oui, de Molière. Et c'était 10 euros, je crois. Moi, j'avais pas 10 euros, moi, je dis, j'ai 3 euros seulement. Il me dit, oh, il y avait personne, il me dit, allez, va pour 3 euros. Non. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que ce que le mec n'avait pas vu, alors c'était, le problème, c'est que c'est un volume dépareillé, mais c'est pas très grave, c'est des pièces de Molière. Non. Ce qu'il y avait de bien, c'est que c'était écrit en petit, Imprimerie Honoré Balzac. C'est un livre imprimé par Balzac. C'est quand même bien.
C'est très élégant.
Moi, j'en ai plein des livres imprimés par Balzac. Parce qu'on les trouve, parce que les gens ne le savent pas.
Dans un instant,
Et une fois, alors, je vous raconte ça. Ça, c'était il y a quelques années. Non, mais c'est amusant.
Oui, mais je vous en prie, j'ai jamais été aussi décontenancée par un invité.
Pourquoi?
Par le rythme de parole entre nous.
Je parle trop vite.
Non, c'est assez rigolo.
Mais je parle trop vite, mais ça, je le sais.
Non, vous parlez absolument pas trop vite. Je parle trop vite, pas
vous. Non, non, moi, je parle trop vite. Non. Un jour, je sais pas pourquoi, sur les quais, je regarde et je vois les croix de bois. C'est à la hauteur du Châtelet. Donc, une édition pas tellement intéressante de 1924, donc très tardive. Pourquoi est-ce que je sors ce livre? Je le sors, je regarde. Écoutez rien, écoutez 10 francs, 5 francs, je sais pas. Et je vois, chambre 6, vous pouvez descendre, le hall est désert.
Oh, c'est très joli, un petit mot.
On sait pas, alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une affaire d'espionnage? Est-ce que c'est une histoire d'amour? J'en sais rien. J'ai acheté, évidemment. Mais c'est vachement bien.
Ouais.
Chambre 6, vous pouvez descendre, le hall est désert. Je saurai jamais, j'aurai jamais la réponse.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter. Nous sommes avec Viaz et on vient d'entendre un titre de la playlist France Inter, Island of Doom d'Agnès Obel. Tout de suite, Sacha Guitry.
C'était un homme d'un talent considérable et lumineux. C'était un des plus grands peintres de notre époque. C'était Monsieur Degas. Monsieur Degas naquit à Paris le 19 juillet 1834. Et il est doublement illustre parmi les artistes du monde entier, d'abord à cause de son génie, ensuite à cause de son esprit, qui était redoutable. Les mots qu'il a faits sur les peintres qu'il n'aimait pas, et il n'en aimait guère à l'exception de Ingres, profonds et si cruels que dans le monde des arts, on estime à juste titre qu'ils étaient mortels.
1915, Sacha Guitry à propos d'Edgar Degas dans Ceux de chez nous, pour introduire le premier des trois peintres qui vous enchante, Vias. À chaque fois qu'on veut parler de quelqu'un et qu'on ne trouve pas d'archives pour illustrer, on se tourne vers Sacha Guitry parce qu'il a parlé de tout le monde.
Et puis il a fait ce film que je n'ai malheureusement jamais vu parce qu'il passe jamais, qui est Ceux de chez nous, en effet, où il interviewe Rodin, il interviewe Degas, tous les petits vieux qui allaient mourir. C'est formidable.
Oui.
Et j'aimerais bien le voir, ce film, j'ai jamais vu.
C'est possible, je pense.
Oui, ça doit être possible, mais je suis flemmard.
Ah, mais ça, je comprends.
Moi, j'ai inventé la procrastination.
Ah oui, c'est
oui.
Vous.
Ah oui, c'est moi, oui.
Ah non, vous ne nous avez pas rendu service.
Bah non, je sais bien, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre.
Ah oui, mais on n'a pas le choix, c'est trop alléchant.
Mais c'est vrai que Degas, c'est magnifique. Moi, j'aime pas les danseuses, ça m'ennuie.
Ah oui, bah c'est drôle, il y a une exposition en ce moment au musée d'Orsay sur Degas à l'opéra.
Mais ça m'ennuie un peu, ça.
Alors, qu'est-ce que vous aimez chez Degas? Les scènes de café, les maisons closes,
oui, c'est ça,
les blanchisseuses.
Ça, oui, tout ça, tout ce qui est la vie de tous les jours. Mais il n'est pas le seul. Il y a Toulouse-Lautrec aussi qui est magnifique.
Oui.
C'est Cézanne. C'est une période incroyable. Quand même.
Mais alors, Toulouse-Lautrec, justement, qui s'est inspiré de Degas, oui. Et qui faisait des illustrations pour l'hebdomadaire humoristique Le Rire.
Oui. Et il se dit, en passant, Toulouse-Lautrec qui est enterré à côté de la maison de Mauriac, à Verdelais. Au départ, il était enterré dans le caveau familial à Toulouse. Et sa mère l'a déterré nuitamment et est allée l'enterrer à Verdelais, à côté de la basilique de Verdelais, et elle s'est fait enterrer avec lui.
Elle a fait ça toute seule, comme dans un livre d'épouvante.
Ouais, par ce que j'en sais, oui.
Alors, ce qui vous plaît chez Toulouse-Lautrec, qui était d'ailleurs un sacré coco, on peut le dire quand on se penche un peu sur sa vie, son apparence physique, il était très bonhomme, et c'était un vrai bon vivant, quoi.
Moi, ce qui me fait rire, c'est sa dernière phrase, parce que il aimait pas son père. Son père était là, il était en train d'agoniser, le pauvre Toulouse-Lautrec, et son père était là, il chassait des mouches, parce que c'était l'été, donc c'était là, dans le près de Malaga, donc en Gironde, et son père chassait des mouches, et Toulouse-Lautrec l'a regardé, a dit « vieux con, il est mort
». Pas mal. Mais c'est drôle, il y a la figure du père qui tourne un peu dans cette émission Vias, puisque vous avez aussi choisi Cézanne.
Oui.
Et Cézanne était écrasée par l'autorité de son père jusqu'à ses 47 ans, date où son père meurt.
Oui. Bah, les enfants Mauriac, c'est pas qu'ils étaient écrasés, c'est qu'ils ne pouvaient pas bouger une oreille sans le consentement de leur père. Jean Mauriac, dont je parlais tout à l'heure, celui qui habite à côté, je me souviens qu'il était follement amoureux d'une dame. Mais il n'a pas pu l'épouser parce qu'il était divorcé. Son père s'est refusé. Son père a dit non. Et moi, je suis né parce que mes parents se sont rencontrés à Berlin en 45. Papa, il sortait de camp de prisonniers. Il a fini la guerre dans l'armée rouge, ce qui pour un prince russe était un peu bizarre. Enfin bon, ça se comprend très bien. Et il a réintégré l'armée française. Et là, il a rencontré maman qui était ambulancière. Et maman est tombée amoureuse. Et elle a écrit une lettre à maman qui malheureusement a été perdue, mais que j'avais lue dans le temps, où elle énonce toutes les différences entre papa et elle. Ils n'ont aucun point commun, mais elle dit « Je ne suis pas sûre de... avec lui, peut-être, je serais peut-être heureuse, avec un peu de chance. » Et puis, post-scriptum, « Je ne suis pas sûre de faire une princesse bien présentable. » Tout ce qu'elle met. Et Mauriac, qui était quand même... Bon, c'était un bourgeois bordelais, il ne faut pas déconner non plus. Catholique. Papa était orthodoxe. Ça se faisait pas à l'époque. Alors il a téléphoné à Troya. Il a dit « Wieszewski, ça vaut quelque chose ?» Troya a dit « Attendez pas, bougez pas, je vérifie. » Et après, il a rappelé, il a dit « Écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est les Darcourt, les Rohan, tout ça au mieux. Vous pouvez y aller. » Et donc Mauriac a accepté. Mais quand ils se sont mariés, ils ont eu un double mariage. Ils ont eu un mariage en grande pompe rue de la rue et un mariage à l'église d'Auteuil à côté de chez vous, là.
Vous dites chez moi, mais je précise que c'est la radio.
Oui, bien sûr. Oui.
Sinon, ça fait un peu copinage.
Et à l'église d'Auteuil, ils se sont mariés à la sacristie. C'était quand même la Libération, c'était en 45, 46. C'était Mauriac, c'était pas n'importe quoi. Vous voyez ce qu'il y avait en plus. Et quand maman a demandé au curé pourquoi la sacristie, il lui a répondu « Que voulez-vous, madame ? L'église ne peut pas se réjouir d'un tel mariage. »
Sacré mot.
Donc j'ai eu du pot, j'aurais failli ne pas mourir, j'aurais failli pas naître plutôt.
Ah ouais, c'est un beau lapsus, j'aurais failli ne pas mourir. On va terminer espoir, Viaz. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Il était temps que ça s'arrête, je devais fatiguer là.
Je signale la sortie aux éditions La Différence d'un 8e volume de votre série pour enfants mais pour grands aussi, Les Aventures du Fantôme qui Pète, intitulé Des Proutes en Avalanche. Vous avez vu l'air grave que je prends pour citer ce titre.
Vous avez raison, c'est un livre tout à fait admirable.
Mais tout à fait
et
admirable.
Je vous signale que c'est le 8e volume, donc il y en a 7 avant.
Oui, c'est vrai, avec des titres tout aussi réjouissants.
Oui.
Et on peut aussi chaque semaine retrouver vos dessins dans le journal du dimanche.
Absolument.
Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi réjouis qu'un pompon déguisé en feuille de basilic. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.